Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, maudite génétique de toxico et d'alcoolo. On pète de moins en moins aux frettes. Des contenants réutilisables suivis à la trace. Et carte blanche à Maud Landry, la raison qui rend fou. Bonne écoute.
Maudite génétique de toxico et d'alcoolo. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 28 janvier 2023 dans la presse. Ces derniers jours, une publication du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, traitant des effets de l'alcool sur la santé, a fait beaucoup parler. Entre ceux qui accusent la science d'être alarmiste et rabat-joie, les autres qui interrogent la transparence de l'organisme Éduc'alcool et une troisième frange qui critique les méthodes commerciales de la SAQ, les positions semblent irréconciliables. Je vous rassure tout de suite, je ne veux pas m'inscrire dans cette polémique. À la place, je vous propose un petit retour dans une page d'histoire évolutive de notre espèce pour rappeler que c'est dans la nature de Sapiens de chercher à perturber sa conscience. On a beau essayer de plaider la restriction à la matière, l'humain a toujours cherché ce feeling. L'alcool, les produits du cannabis, du pavot à opium, de la coca, les drogues de synthèse et les nombreux alcoolides psychoactifs présents ou extraits des champignons trouvent encore généreusement preneurs sur la planète. L'humain, c'est l'animal qui adore brouiller sa conscience ou ouvrir la porte qui protège ce jardin bien secret. En 2004, le biologiste américain Robert Dudley émettait l'hypothèse des « singes ivres », une théorie selon laquelle notre espèce a une prédisposition génétique qui la pousse vers l'alcool. Très tôt dans l'évolution, nos ancêtres ont cherché les effets de l'alcool sur leur humeur. Bien avant la fermentation du raisin et de l'amidon des céréales, se gaver de fruits en début de putréfaction pouvait leur donner une forme d'ivresse. Bien avant l'invention des boissons, cette façon de s'alcooliser devait être fréquente chez les chasseurs-cueilleurs. Elle est d'ailleurs au centre des travaux du généticien américain de l'Université de Santa Fe, Matthew Carrigan, dont la contribution sur le sujet est gigantesque. Ce dernier a découvert en 2017 qu'il y a 10 millions d'années, une mutation qui s'est produite chez un ancêtre que nous partageons avec les grands singes nous a donné la capacité de métaboliser 40 fois plus rapidement l'alcool. Cette dégradation de l'éthanol dans notre corps est assurée par une enzyme appelée l'alcool déshydrogénase, ADH4. Avant cette mutation, la version de cette enzyme présente dans notre lignée évolutive était moins efficace. Autrement dit, si on leur donnait de l'éthanol, les animaux porteurs de cette ancienne forme d'enzyme auraient été ivres plus rapidement et durablement. Cette mutation rapportée par Matthew Carrigan allait donc se traduire par une meilleure adaptation aux produits alcoolisés. L'auteur raconte que ce changement s'est produit pendant un épisode climatique, une sécheresse qui aurait poussé les primates à descendre des hauteurs et se trouver de quoi manger par terre. Comme ces espèces arboricoles se sont mises à déguster des fruits alcoolisés, cette mutation adaptative salvatrice s'est rapidement répandue. En cause, après un épisode éthylique, elle leur donnait la possibilité de revenir rapidement à cet état d'alerte indispensable à la survie. Quand on s'active dans les hauteurs des grands arbres, être grisé peut mener à une chute mortelle. Et lorsqu'on est par terre, un manque de vigilance augmente la vulnérabilité face aux prédateurs. Au-delà de la sécurité, avance aussi l'auteur, l'ingestion d'alcool permettait à ces animaux de ralentir leur métabolisme et de favoriser le stockage des réserves adipeuses pendant cette période de précarité alimentaire. Ce nouvel outillage biologique permettant une meilleure tolérance de l'alcool était donc doublement bénéfique. Armés de cette enzyme, nos ancêtres devront cependant attendre qu'un curieux découvre que le miel, gracieuseté des plantes aux abeilles, pouvait se transformer en alcool grâce à l'action des levures présentes dans tous les environnements. il suffit de le diluer à 70 % et de laisser ses ouvriers invisibles faire le reste du travail. La sédentarisation, l'invention des vases et des contenants, mais surtout la domestication des céréales et de la vigne, compléteront notre marche vers les grandes beuveries. Patrick McGovern, professeur d'archéologie biomoléculaire à l'Université de Pennsylvanie et grand spécialiste de l'histoire des boissons anciennes, raconte que c'est le désir de s'alcooliser avec la bière qui aurait en grande partie poussé les humains à jeter leur dévolu sur les céréales qui produisent des graines bien insignifiantes. À partir du moment où ils ont découvert que les ferments présents dans l'environnement pouvaient les transformer en pain et en bière, nos ancêtres lointains sont devenus des disciples fanatisés de ces minuscules graines. Dans mon coin de pays, brasser de la bière de mil ou de sorgho est une vieille tradition aujourd'hui agonisante. Partout dans le Sahel, on connaissait cette pratique. Ainsi, si on vous offre un verre de Dolo au Burkina Faso, ce ne sera pas un verre contenant de l'eau. C'est beaucoup mieux. Le Dolo est une bière fabriquée à partir de mil ou de sorgho rouge. Une dolotière est une marchande de Dolo, et comme elle dispose rarement d'un frigo dans sa campagne, elle vous refilera du Dolo tiède dans une calebasse. Il est coutume alors de verser quelques gouttes du Dolo par terre avant d'en prendre une gorgée. C'est une façon de trinquer avec les ancêtres. Un conseil, allez-y mollo sur le Dolo. Sinon, bobo au coco et gros dodo. La morale de mon histoire est la suivante. Comme la prohibition religieuse et sociale d'autrefois, ces appels à l'abstinence qui viennent de la science n'empêcheront pas les gens de boire. Le bonheur est multifactoriel et la santé du corps est indissociable de celle de l'esprit. Pour beaucoup de personnes, le verre de vin est une source de détente. Il permet de capturer le hamster qui trottine dans le cerveau et de le mettre en cage le temps d'une petite escapade avec les amis et la famille. Cela dit, loin de moi l'idée d'innocenter ou de banaliser le côté sombre de l'alcool. Pour celui qui cherche l'équilibre, la sagesse, Paracelse, ce médecin, alchimiste et philosophe suisse qui faisait sensation au début du XVIe siècle, est à considérer. C'est à Paracelse que nous devons la citation encore très actuelle. « Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait la différence. » C'était « Maudite génétique de toxico et d'alcoolo », un texte de Boucard Diouf paru le 28 janvier 2023 dans la presse.
On pète de moins en moins aux frettes. Un texte de Boucard Diouf, paru le 21 janvier 2023 dans la presse. Parmi tous les 10 spécialistes du climat québécois qui en mettent plein la vue aux immigrants sur les rigueurs de l'hiver, mes préférés restent ceux qui racontent des histoires du genre « Quand j'étais petit, les bancs de neige étaient pas mal plus hauts qu'aujourd'hui ». Une fois, j'ai rencontré un chauffeur de taxi en Gaspésie à qui j'ai remis sous le nez ce que je considérais comme une mystification à mon intelligence. C'était au milieu des années 1990, alors que je continuais mon très long apprentissage de la nordicité. J'ai appris à la dure, entre Gaspé et Rimouski, qu'avoir quelques hivers à son actif est nécessaire pour saisir la grande différence entre se geler le cul et péter aux frettes. Cette dernière est ma particularité lexicale québécoise préférée. Pendant que dans le reste de la francophonie, on meurt, on décède, on trépasse, on crève ou on casse sa pipe, les Québécois sont arrivés avec cette parlure imagée et poétique qui permet de mieux visualiser la rigidité cadavérique. Péter aux frettes. Je dois avouer que la première fois que j'ai entendu cette expression, c'est la piste du bûcheron dans sa bécosse en plein mois de janvier, après un copieux repas de soupe au pois, qui s'est présenté à moi. Quand on commence à être gelé comme une crotte, mieux se chauffer au gaz pour ne pas péter aux frettes, qui signifie se les geler ou tomber raide mort. À ne pas confondre avec tomber mort raide. Si tomber raide mort, c'est la vie qui va. Tomber mort raide, c'est le Viagra. Je reviens à mon histoire, ma rencontre hivernale gaspésienne avec ce chauffeur de taxi. Quand je suis monté dans sa voiture, malgré le fait que Boucard était black et arborait une tuque africaine multicolore, il a quand même trouvé le moyen de me lancer. « Tu n'as pas l'air d'un petit gars d'ici, toi. »« Ah bon? Ça se voit tant que ça? Tu viens-tu d'ici? » »« Non, monsieur. » »« Trouves-tu qu'il fait fret au Québec? » « Oui, monsieur. Estime-toi chanceux, mon homme. Quand j'étais petit, les bancs de neige étaient pas mal plus hauts qu'aujourd'hui. » La semaine suivante, je suis encore tombé sur le même taxi et, croyez-le ou non, monsieur semblait ne pas me reconnaître. Il me dit « Tu viens-tu d'ici? » « Non, monsieur. Trouves-tu qu'il fait fret au Québec? » « Oui, monsieur. Estime-toi chanceux, mon homme. » Quand j'étais petit, les bancs de neige étaient pas mal plus hauts qu'aujourd'hui. Quant à notre troisième rencontre, j'ai mis le pied dans son taxi. C'est moi qui ai entamé la discussion. Trouves-tu qu'il fait fret, le Gaspésien? Oh que oui, mon homme! Estime-toi chanceux. Moi, quand j'étais petit, les bancs de neige touchaient les fils électriques. Complètement surpris, le taximan a ralenti, s'est retourné vers moi et m'a dit en souriant « Oh ben tabarne, tu viens vraiment d'ici, toi? » Pourtant, loin d'être un indigène, je voulais simplement lui indiquer que je connaissais un tout petit peu la théorie de la relativité. Quand on est petit enfant, les bancs de neige peuvent paraître très hauts assez vite, mais... En grandissant, ce qui nous semblait géant devient miraculeusement moins impressionnant. Je racontais souvent cette anecdote un peu romancée dans un spectacle précédent et ça faisait réagir. Des spectateurs convaincus que j'étais dans le champ m'envoyaient des photos de bancs de neige de leur jeunesse pour me prouver que ce n'est pas juste une question de relativité. Force est d'admettre aujourd'hui qu'il se passe quelque chose d'anormal. On n'a assurément plus les hivers qu'on avait, disent aussi des scientifiques. Les données provenant des stations météorologiques prouvent que les hivers sont moins froids et plus courts. Oui, il y a de rares exceptions à la règle, mais la tendance reste scientifiquement indéniable. Ce sont les conclusions du réseau interdisciplinaire Ouranos qui regroupe quelques centaines de chercheurs, experts et autres acteurs qui s'intéressent à la climatologie et au changement climatique. Autrement, le fameux « on n'a plus les hivers qu'on avait » n'est pas le seul fait d'esprit nostalgique ou porté à l'exagération. Cette affirmation mérite d'être considérée car elle repose sur un constat bien fondé. Si cette tendance au réchauffement se poursuit, nous n'aurons bientôt plus la joie de péter aux frettes ou de se péter la gueule sur les trottoirs mal déglacés de Montréal. Chez nous, les gens qui ont vu longtemps neiger ont aussi des choses à dire sur les bouleversements climatiques. Ils représentent des références vivantes qui méritent d'être entendues et leur verdict semble unanime sur le sujet. On n'a plus les hivers qu'on avait et les bancs de neige sont assurément de moins en moins impressionnants. Même la ceinture fléchée sixième dan que je suis devenue, gracieuseté de 32 hivers dans le corps, commence à chanter qu'on n'a plus l'hiver qu'on avait. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on y pète de moins en moins aux frettes que le Québec deviendra un paradis où tout le monde pète le feu. C'était « On pète de moins en moins aux frettes », un texte de Boucard Diouf, paru le 21 janvier 2023 dans la presse. Des contenants réutilisables suivis à la trace. Un texte de Marc Tison, paru le 23 janvier 2023 dans la presse. Le client les emprunte comme un livre à la bibliothèque. Les contenants de mets à emporter en plastique de Beau sont munis d'un code QR qui les rend traçables. Grâce à une application web, ils sont inscrits au compte du consommateur, puis déduit lorsque celui-ci les rapporte à un des points de récupération. L'emprunt est gratuit pour le client. Les contenants sont remis dans le circuit après avoir été lavés. Jusqu'à 1000 fois, dans l'entreprise jumelle de Beau, Lavabo. Résultat, 1000 fois moins de déchets. Titulaire d'un bac en marketing, Michel Wong travaillait pour une entreprise de distribution de détergents et de lave-vaisselle industrielle pour les restaurants quand la pandémie a placé tout le marché au congélateur. La prolifération des services de plats à emporter l'a incité à ajouter des contenants à usage unique à son offre. L'initiative a vite nourri chez elle un questionnement teinté d'inquiétude. Combien de contenants de plastique prenaient ainsi le chemin de la poubelle? Chaque semaine, c'était moi qui faisais les commandes et je voyais les contenants qui s'empilaient jusqu'au plafond dans l'entrepôt. Ils allaient contenir des aliments pendant quelques minutes avant d'être jetés. Je me suis dit, notre compagnie vend des produits de lavage, pourquoi ne pas les laver et les réutiliser plusieurs fois? Tadam! L'idée de Beau est née comme ça. J'ai lancé ma propre compagnie, nous raconte Michelle Wong, présidente et fondatrice de Beau. Mais il fallait encore mettre au point la recette. Après 10 ans dans cette industrie alimentaire, j'ai des contacts, dit-elle. Une application web a été mise au point par 3 consultants et 2 développeurs engagés à temps plein par Beau. Le principe consiste à proposer aux restaurants et leurs clients un service de prêt et retour de contenants sans frais à la manière des bibliothèques, pour éviter la consigne, explique Michel Wong. Une consigne de 5 ou 6 dollars, surtout ces jours-ci avec l'augmentation des prix, ça risquait d'être intimidant pour les consommateurs. Le code QR du contenant est numérisé au restaurant pour être associé au code d'utilisateur du consommateur inscrit sur la plateforme. L'emprunt est gratuit pour celui-ci, pourvu qu'il rapporte le contenant à un des 20 points de récupération dans un délai de 14 jours. L'entrepreneur a trouvé aux États-Unis des contenants en polypropylène qui résistent aux micro-ondes, à la congélation, au lave-vaisselle industriel, et qui peuvent subir jusqu'à 1000 cycles d'utilisation avant d'être envoyés au recyclage. Je savais que ça prendrait du temps pour avoir assez de volume pour que ce soit rentable. J'ai créé une autre division, appelée Lavabo, qui fait le lavage pour les entreprises qui veulent offrir le produit réutilisable, mais ne veulent pas investir pour bâtir leur propre plonge, dit-elle. Ce qui est difficile pour une start-up, c'est que tu ne peux pas vraiment avoir de financement sans chiffres, mais il est difficile d'avoir des chiffres sans investissement initial, explique Michelle Wong. Avant d'inscrire des chiffres à son bilan, elle a conclu un partenariat avec les fermes Loufa pour remplacer ses boîtes de carton par des bacs réutilisables. C'est plus de 1000 unités par jour qu'on nettoie chez Lavabo pour eux et qui ne vont pas aux déchets. C'est ce type de contrat qui nous a donné assez de revenus pour que les gens clés, dans les comités qui analysent les dossiers, nous portent de l'intérêt. À la fin de décembre, Beau a obtenu un financement de 650 000 $ auprès de PME Montréal-Ouest de Lille et de la BDC, Business Development Company, contre toute attente pour une entreprise en démarrage, surtout dans le marché technologique d'aujourd'hui, se réjouit l'entrepreneur. L'entreprise emploie maintenant 16 personnes réparties entre son service de marketing, l'équipe de développement technologique et l'entrepôt où s'effectue l'impression et le lavage. Depuis son lancement en novembre 2021, Beau a réuni une 30aine de commerces montréalais autour desquels quelques 350 consommateurs ont effectué plus de 3000 emprunts. L'entreprise compte environ 30 000 contenants en circulation en 5 formats. L'avenir. L'entreprise a repéré d'autres secteurs qui avaient des besoins similaires. certains traiteurs qui vendent des plats à réchauffer au four à la maison souhaitaient avoir des contenants réutilisables et traçables en acier inoxydable. Ça va être une autre gamme de produits beaux, annonce Michel Wong. L'interdiction de plusieurs articles de plastique à usage unique dans les restaurants et commerces alimentaires montréalais, qui entrera en vigueur le 28 mars 2023, ouvre un marché potentiel pour des gobelets à café réutilisables et lavables. On a commencé à faire le design d'une tasse en plastique transparent qui sera fabriquée sur la rive sud, confit-elle. Beau a établi des liens avec des cafétérias scolaires et certaines résidences pour aînés qui utilisent des contenants en styromousse. On fait des tests avec tous ces joueurs pour développer une solution ciblée pour chaque marché. C'était des contenants réutilisables suivis à la trace, un texte de Marc Tison, paru le 23 janvier 2023 dans la presse. Carte blanche à Maude Landry, la raison qui rend fou. Un texte de Maude Landry, humoriste, paru le 29 janvier 2023 dans la presse. Septembre 2022. Je m'apprête à quitter Montréal avec ma technicienne de son. Nous remplissons d'essence le Tucson que nous avons loué pour nous rendre à mon spectacle à Québec. Nous rejoignons plusieurs voitures assoiffées qui attendent à la station-service au coin de deux Maisonneuve et de Lorimier. Un homme sans chandail et sans chaussures, que je devine aussi sans domicile fixe ni rasoir, se tient à l'entrée de la station-service. Agité, il lance aux gens de sa voix râpeuse « Vous êtes fous, arrêtez de gazer !» Des témoins filment l'homme avec leur cellulaire d'une main, dissimulant leur sourire de l'autre, tandis qu'il marche d'un pas saccadé vers la voiture d'une femme en train de faire le plein. Il s'accote sur la fenêtre baissée du côté passager, où un enfant joue sur une tablette électronique. « Toi, là, quand tu vas être grand, tu pourras pas vivre sans masque à gaz », aboie-t-il au petit humain avant de tousser et de cracher par terre. La mère, dégoûtée, s'empresse de quitter les lieux, évitant de peu l'homme avec sa voiture. « C'est ça, retournez dans votre char, madame. Allez-y, brûlez le pétrole comme si de rien n'était pour toutes nous tuer à petit feu. Bye! » Il regarde la voiture partir en la saluant de grands gestes du bras. Mon ami et moi assistons à ce spectacle, perplexes, mais tout de même un peu divertis. Puis, il se retourne vers nous et s'approche du VUS, déterminé. « Vous autres aussi, hein? Ça gaze, ça gaze, ça gaze! » Il émet des bruits de flatulence avec sa bouche et éclate de rire jusqu'à s'étouffer. Je le trouve amical, presque attachant. J'observe les gens autour de moi en train de regarder le va-nu-pied. Un amalgame de répulsion, d'agacement, un peu de rigolade aussi. Il pense « Mais il est fou, il a besoin d'aide psychologique. Vite que quelqu'un, pas moi, aille le déposer devant un asile, ou quelqu'un lui mettra une camisole de force et qu'on en finisse avec ce cirque. Non, mais franchement, ça a-tu du bon sens, terroriser une pauvre femme avec son enfant comme ça? » Cet inconnu fascinant a peut-être perdu le gros bon sens question d'essence en public. Soit. Mais je me demande, est-il vraiment fou? Ou navigue-t-il dorénavant dans un grand instant de lucidité? On pourrait croire qu'il vient du futur pour nous prévenir de quelque chose. C'est terrifiant. Il s'est passé quelque chose en lui, un déclic. La gravité de la situation climatique l'a emporté sur sa capacité à vaquer à ses occupations, comme nous le faisons tous. On dit que les cinq étapes du deuil sont le déni, la colère, le marchandage, la grande tristesse et l'acceptation. Y a-t-il une étape de plus que cet homme a franchie par laquelle nous allons finir par passer, nous aussi? le délire psychotique, le cynisme pur, une décadence suprême qu'aucune dose de LSD ne saurait procurer? Est-ce contagieux? Vous avez raison, monsieur l'Illuminé. C'est vrai qu'il faudrait tout arrêter radicalement. Les voitures, les avions, la viande, les bombes, la vapoteuse, tout. Les spécialistes les plus spécialisés le confirment. Il est déjà trop tard. À ce rythme-là, on ne fait qu'accélérer exponentiellement la chute vers les lendemains apocalyptiques qui nous guettent. On est nombreux à être d'accord là-dessus. D'ailleurs, on commence à en parler, justement, à préparer des changements à long terme dans le système, tranquillement mais sûrement. Sûrement pas, en fait, mais tranquillement, c'est certain. Vous avez raison, monsieur le épipuant, c'est urgent. Mais pourriez-vous juste vous tasser de notre chemin? C'est parce que le Costco ferme à 17 heures et il faut à tout prix, en fait, à prix réduit si possible, aller acheter des petits verres en plastique pour le party de départ à la retraite de Mona. Merci, lâchez pas, continuez de répandre votre important message. Ah gang, on va faire une différence, chacun notre petite part. Prendre les transports en commun de temps en temps, recycler, se retenir de faire un barbecue. En revanche, des feux d'artifice chaque samedi de l'été, c'est vital pour notre santé mentale. On ne va pas s'empêcher de vivre, quand même. Ça va bien aller. Parfois, je me sens comme ces poupées troublantes au sourire permanent. Vous savez, ces bébés sans âme qui ferment les yeux quand on les couche sur le dos. J'essaie de ne pas y penser trop souvent parce que je ne voudrais pas finir comme la poupée Chucky que j'ai croisée à la station-service, celle que personne ne voulait prendre dans ses bras. C'était « Carte blanche » à Maud Landry, « La raison qui rend fou », un texte de Maud Landry, humoriste, paru le 29 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.